Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on se penche sur une question fascinante. Comment un chef d'État peut-il orchestrer une victoire électorale historique, balayer ses adversaires pour finalement rendre son propre pays totalement ingouvernable?
Ouais, c'est tout le paradoxe de Pedro Sanchez lors des législatives espagnoles d'avril 2019.
Exactement. Après la chute de son budget, qui a été, rappelons-le, torpillé par les indépendantistes catalans, il provoque des élections anticipées. Et pour moi, la stratégie de polarisation extrême qu'il déploie alors, c'est pas un caprice, c'était une manœuvre de survie absolument vitale pour faire barrage à une droite en pleine radicalisation. Je suis d'ailleurs convaincue que c'est un coup de maître tactique.
Alors, vital pour son parti, peut-être oui, mais fatal pour les institutions, j'en suis persuadé. Transformer une élection nationale en un référendum fondé sur la peur, ça a créé un électrochoc, certes, mais ça a fracturé le Parlement de manière irréversible. Sanchez a gagné l'élection, mais il a sacrifié la gouvernabilité de l'Espagne.
Il faut quand même se rappeler d'où il partait. Je veux dire, Sanchez dirigeait le pays avec le socle parlementaire le plus fragile de la démocratie récente, 84 députés seulement.
C'est vrai, c'était très peu.
Voilà. Et son coup de génie, c'est d'avoir compris la mécanique psychologique de la fameuse photographie de la place Colombes. En voyant les leaders du Parti populaire, de Ciudadanos et de Vox posés ensemble sous le même drapeau, il a immédiatement transformé l'image en arme politique.
Une arme basée sur la peur, on est d'accord.
D'afficher sur un choix clair. Il a dit aux électeurs, en gros, c'est nous ou le retour des heures sombres avec l'extrême droite. En polarisant le scrutin de cette façon, il a siphonné le vote utile et propulsé le Parti socialiste en tête. 123 sièges, c'est de la pure physique politique. Utiliser la masse de ses adversaires contre eux-mêmes.
Non, mais sauf que la physique politique, elle a des conséquences à long terme. Oui, agiter le spectre de l'extrême droite a provoqué un sursaut de participation historique, c'est indéniable. Plus de 71%. Mais analysez la mécanique de cette soi-disant victoire.
Je l'analyse comme un succès électoral incontestablement.
Un succès qui les a emmurés vivants, en misant tout sur la fracture identitaire et surtout en refusant de jeter des ponts sur la crise catalane. La gauche est restée coincée bien en dessous de la majorité absolue des 176 sièges. C'est un peu comme construire une forteresse pour se protéger d'un siège, mais oublier d'y intégrer une porte de sortie. Le lendemain du vote, le bloc progressiste était, barricadé, incapable de trouver les alliés nécessaires.
Mais il n'avait pas vraiment d'autre choix face au suicide collectif de la droite. Enfin, la polarisation n'est pas une invention de Sanchez, c'est une réaction à la surenchère de Pablo Casado.
Casado a fait des erreurs de campagne, c'est sûr.
Des erreurs. Le leader du Parti populaire a adopté une rhétorique martiale, allant jusqu'à traiter le Premier ministre de traître à la nation. La mécanique de la peur, elle était alimentée par la droite elle-même, qui s'est littéralement disloquée d'ailleurs.
Ouais.
Pour utiliser une image, la droite espagnole a agi comme trois pilotes, le Parti populaire, Ciudadanos et Vox, tous se disputant violemment le volant de la même voiture. Le résultat était mathématique, ils ont fini dans le décor. Ils ont vampirisé leurs électorats respectifs au lieu de s'additionner.
D'accord, les trois pilotes ont craché la voiture, je vous l'accorde. Mais la gauche n'était pas dans un meilleur véhicule. Je vous parlais de victoire socialiste, mais regardez après l'effondrement structurel de leur partenaire naturel.
Vous parlez de Podemos ?
Évidemment. Unidas Podemos s'est effondré à 42 sièges, rongé par des purges internes sanglantes et le départ de figures clés comme Íñigo Errejón. Pablo Iglesias en était réduit à lire des articles de la Constitution sur les plateaux télé pour se donner une stature institutionnelle. C'était pathétique. Si Sanchez a été incapable de former un gouvernement pendant tout l'été, c'est pas juste à cause du blocage des autres. C'est parce que son propre camp était un champ de ruines.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le blocage venait surtout de la mort définitive du bipartisme traditionnel. C'est ça le cœur du problème. Ce n'était plus la politique du compromis, mais celle du veto absolu.
Oui. Mais ces vétos absolus viennent d'où ?
De Ciudadanos. Ils ont imposé un cordon sanitaire catégorique autour du Parti socialiste. Et de l'autre côté, les indépendantistes exigeaient des lignes rouges infranchissables sur l'autodétermination. Dans ce contexte, Sanchez ne pouvait pas brader l'intégrité de l'État simplement pour, acheter une investiture.
Attendez. Ces vétos absolus sont précisément le produit de sa campagne électorale. Quand vous passez des mois à convaincre vos électeurs que le camp d'en face n'est pas un adversaire politique, mais une menace existentielle pour l'Espagne, vous détruisez la possibilité même du compromis.
Donc il fallait laisser l'extrême droite s'installer dans le débat sans réagir ?
Non, mais c'est pour cela que l'enthousiasme démocratique d'avril s'est transformé en un échec retentissant en septembre, obligeant le roi Philippe VI à constater l'impasse et à renvoyer les Espagnols aux urnes en novembre. Une élection sans gouvernement, désolé, mais c'est un échec institutionnel.
Je maintiens que freiner la coalition des droites radicales, c'était l'urgence absolue de ce scrutin. Et sur ce plan, la digue socialiste a tenu.
Au prix d'une paralysie totale, oui.
Mais nous touchons là au cœur du problème, je pense. Les ondes de choc de la crise de 2008, et bien sûr la fracture catalane, ont tout simplement pulvérisé les anciennes frontières politiques. Le paysage s'est irrémédiablement fragmenté.
Exactement. Là-dessus, on se rejoint totalement. Les vieux réflexes ne fonctionnent plus du tout dans ce nouvel écosystème.
Voilà. C'est donc à nos auditeurs d'analyser cette mécanique complexe et d'en tirer leurs propres conclusions. Au final, qu'est-ce qui coûte le plus cher à une démocratie ? Laisser ses adversaires se déchirer au risque de radicaliser le pays ou brûler les ponts du compromis pour s'assurer la première place. Merci de nous avoir suivis.